Bon, avec un président déçu ce soir, mais j'imagine quand même content de la saison de son club, Dijon a une Coupe de France, a montré du beau hockey à tout le monde. Bon, ils sortent ce soir face à Grenoble, mais c'est quand même une sacrée saison pour l'équipe de Dijon.
Oui, je crois que c'est une saison qui montre que Dijon peut faire des choses. Hein. Ça démontre que quand on disait rentrer dans le top 4, ça paraissait inaccessible. Aujourd'hui, c'est possible. Et puis, moi, je dis surtout c'est une super saison parce que c'est une des rares équipes majoritairement françaises. Donc, pour moi, j'ai tendance à dire qu'il y a d'autres clubs qui ont fait des bonnes saisons. Nous, on est dans le top 4, on a fini deuxième, on a le meilleur marqueur étranger, le meilleur marqueur français, le meilleur pointeur de la ligue, la deuxième révélation. C'est vrai que quelque part, quand on regarde derrière nous, on se dit que c'est une belle saison, que finalement, la crainte de début de saison, c'était de louper le choix de l'entraîneur, louper le recrutement. On a montré finalement qu'on avait bien bossé cet été et que le public il est aussi présent et que la patinoire elle est remplie. Donc je crois que c'était ce qu'on voulait démontrer. Ça fait 15 ans qu'on bosse pour ça et maintenant il faut juste réussir la saison suivante.
Alors, il y a des petits signes. Moi, il m'est arrivé déjà de venir à Dijon. Là, il y avait des pages dans la presse locale. Les gens en parlent. On a le sentiment que le hockey à Dijon est quelque chose qui, même pour des gens qui n'y connaissent rien, qui sont jamais venus à la patinoire, ils savent désormais que ça existe. Ils savent qu'il y a une équipe qui est reconnue au niveau français. J'imagine, quand on est dirigeant, je sais pas, on va acheter un journal, on vous parle du club, on est dans la rue, même des gens que vous connaissez pas vous abordent. J'imagine que c'est quand même une satisfaction. J'ai jamais posé cette question à un dirigeant dans un club français. J'imagine qu'à Dijon, il y a cet aspect-là qui compte.
Je crois que c'est une satisfaction parce qu'on est tous bénévoles dans le club quasiment. Donc on est une association et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que j'ai pas croisé une personne qui m'a pas parlé du match ce soir. Donc ça aussi, c'est, je crois qu'on marque les esprits. On a les autres clubs qui nous ont soutenus. On a la JDL, DFCO qui m'ont envoyé des messages ce soir pour dire bonne chance. Donc je pense qu'aujourd'hui, le hockey, il a un peu pris sa place dans le monde dijonnais où il y a concurrence de sport. Et puis voilà, il y a le basket, il y a le foot, il y a le rugby, il y a le hand masculin, il y a le hand féminin, et il y a le hockey. Le hockey, on était tout petit, et je crois qu'aujourd'hui, on a marqué les esprits. On a descendu avec la surfaceuse, la rue de la Liberté. On a affrété un train avec 1200 personnes pour aller à Bercy. On a montré que finalement, avec des petits moyens, on arrivait à déplacer les montagnes. Et je crois que c'est pour un dirigeant, moi c'est surtout, comme je le répète depuis longtemps, les travailleurs de l'ombre, tous les bénévoles qui sont là, je crois que c'est une vraie satisfaction parce que c'est un retour du travail laborieux de tous ces gens-là.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure en recrutement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de vos joueurs cette année parce que ils jouent du bon hockey, parce que c'est spectaculaire, parce qu'il y a des buts, c'est ce qu'on attend au hockey. En plus, c'est des joueurs qui sont très très agréables à un micro. Vous avez un coach dont on a aussi parlé parce qu'il nous a semblé avoir apporté un collectif, un état d'esprit, une éthique de travail à ce club, à cette équipe. Donc, si on fait le compte, les joueurs, le coach, les dirigeants, vous avez l'air de les avoir. Alors, est-ce qu'il manque pas la patinoire?
Forcément, hein, mais comme je le dis à la mairie et à Gérard Dupire, il faut pas la patinoire avant de montrer qu'on peut éventuellement la remplir. Maintenant, on a fait le job, on a rempli la patinoire, on a refusé du monde, on a montré que le hockey a sa place et les gens ils commencent à en parler, y compris les élus. Donc, je crois que c'est plutôt la preuve par l'exemple, mais c'est clair, moi je le répète et c'est pas sans, je dirais, c'est pas pour faire honte et autres, c'est que si de toute façon il n'y a pas une évolution dans les 4-5 ans sur la patinoire à Dijon, il n'y aura plus de club de haut niveau à Dijon. Il ne faut pas non plus penser qu'on va faire des miracles tous les ans, qu'avec 850 spectateurs ou 1000 spectateurs, on peut faire vivre un collectif de hockey. J'ai des partenaires qui me suivent. Mais je dirais que l'infrastructure aujourd'hui, c'est le point d'achoppement. Mais bon, on a montré quand même que malgré une infrastructure comme ça, on peut être deuxième. Donc imaginez si on avait deux pistes et 2500 spectateurs, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Alors à ce propos, je trouve que le public dijonnais fait beaucoup plus de bruit que d'autres publics que j'ai pu voir dans l'Hexagone. C'est vrai qu'en venant ici, on a le sentiment que les gens sont bien dans cette patinoire. Alors c'est pas, ils sont pas bien à cause de la patinoire forcément. Ils sont bien à cause de, je dirais, du club, à cause des dirigeants, à cause de ce qu'on les autorise à faire. Ils tapent du tambour, on les encourage, on sent que le club est derrière. Et puis en même temps, ils ont une certaine liberté dans l'encouragement de l'équipe. Il y a jamais d'ailleurs de débordement. L'ambiance est extrêmement bon enfant. On a l'impression, moi j'avais l'impression ce soir peut-être d'être à Marseille, à Nice, enfin les exubérants du sud. Je savais pas que Dijon était situé aussi autant au sud, parce qu'on a plus au sud où ça crie moins.
Ouais, non, mais je crois que ça fait depuis 2-3 mois à Dijon qu'on a un vrai public. Moi, j'ai juste la remarque des joueurs après Bercy. On a joué le 31 ici contre Épinal. Ils ont dit, mais il y a encore plus d'ambiance qu'à Bercy. Il y avait plus de 1000 spectateurs dans la patinoire. Et je crois que ça aussi, quand on est joueur de hockey, avoir un public derrière nous, je crois que c'est aussi ce qu'on a gagné cette année. Il y a un vrai public qui s'est construit. Et je pense que ça fait deux fois qu'on fait quand même un coup avec la finale de Bercy, on emmène du monde. Et avoir emmené 1500, mais les gens ils sont revenus, ils se sont pris au jeu, ils en ont parlé. Et comme vous le disiez, la presse elle a pas mal relayé les choses. Et c'est vrai que moi je me souviens du 31 janvier ici contre Épinal. Tous les spectateurs étaient restés, les joueurs sont restés sur la glace. Je pense que ça se voit pas dans beaucoup de patinoires où ils ont fait la Ola et le Bambourguignon. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut garder des joueurs chez nous et continuer à développer ce public dont tout le monde a besoin.
Alors pour revenir sur la patinoire, pour un public non dijonnais qui va nous écouter, on en est où ? On en parle depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a des décisions politiques qui sont prises ? Est-ce que certaines collectivités se sont positionnées en conséquence ? Il y a eu, donc vous le disiez, le fait, bah écoutez, nous on va prouver qu'on peut la remplir. Bon, je crois que là, ce soir, mais c'est pas le seul soir, c'est fait. Là, on peut dire mission accomplie. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Il y a une décision des élus à venir ? Où est-ce qu'en est le dossier sur le plan purement politique et technique ?
Le dossier, il est, je pense, dans les priorités de la prochaine mandature. Donc, que ce soit, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un stade de foot qui a été construit, une piscine olympique. Certes, on parle de la rénovation du palais des sports. J'ai tendance à dire aujourd'hui, une infrastructure comme la patinoire, elle mérite d'être construite parce que j'ai pas non plus peur de dire que le hockey a démontré, l'artistique, il se développe aussi, la vitesse aussi. Donc quelque part aujourd'hui, on en parle, les élus m'en parlent. Ceux qui sont venus à Bercy m'ont dit oui, t'inquiète pas, faut que ce soit dans la prochaine mandature. Après, c'est les finances publiques, c'est pas toujours simple. Mais je pense que c'est vrai que quand on marque les esprits sur une saison, il suffirait qu'on fasse la même derrière et je pense que là le projet il aurait déjà quelques points de plus. Donc,
D'accord. Pour changer un peu, une anecdote. Tribune de presse de Grenoble sur un Grenoble-Dijon, un collègue qui connaît un peu moins le hockey que moi me dit mais c'est qui là ce numéro? Qu'est-ce qui joue bien? Je dis bah Ritz. Il me dit mais non, Ritz c'est le président de Dijon. Un mot quand même sur la descendance qui s'illustre en ce moment. C'est particulier d'être dirigeant d'un club et puis d'avoir son fils qui quand même il brille de manière claire. C'est particulier. Est-ce qu'on a tendance à réduire un peu? On se dit mais non, il est moins bon que ce qu'on le dit. Les gens me font des compliments parce que j'ai les responsabilités. Au contraire, on a peut-être tendance à s'emballer un peu. Comment on vit ça?
Non, moi je suis pas hockeyeur, donc mon fils il fait son job. Je pense qu'il a montré oui, qu'il est. Ouais. Ça a rien à voir avec moi. Non, mais c'est pas que ça a rien à voir avec moi. C'est mon fils. C'est vrai que c'est lui qui marque le but de la victoire à Bercy, mais
voilà,
mais c'est pas pour ça que. Ouais, il est aussi en équipe de France. Il est meilleur joueur des moins de 20 ans. Voilà, il est voilà. Non, mais globalement, je peux pas dire qu'en tant que père, c'est pas une vieille fierté. Mais moi, je dissocie complètement. Moi, je suis dirigeant, je suis président.
Donc, quand vous croisez là,
il est joueur de hockey.
Et quand vous croisez chez vous, là, vous êtes le père, finalement.
Voilà, c'est ça. Moi, quand je suis ici, c'est pour ça qu'avoir un entraîneur comme Yarmo, c'est le président aujourd'hui à Dijon, il s'occupe pas du sportif. Il a juste dit à Yarmo, à l'intersaison l'an dernier, il y a deux joueurs, il faut les garder. C'est Anthony Guttig et Nicolas Ritz. Il m'a dit, ouais, machin, hein, bah, Anthony Guttig, il est meilleur marqueur français. Nicolas, il est un des espoirs, je pense, du hockey français. C'est eux qui ont marqué le but de la victoire à Bercy. C'est aussi ça, les petites histoires du club. Mais c'est vrai que quand je suis là, non, lui, il est dans le vestiaire. Moi, je suis plus dans le vestiaire et je suis président. Donc, je crois qu'on fait les deux choses. Ils ont pas besoin de moi, mes enfants, pour se développer. Et, je pense que derrière, il y a le suivant qui arrive. Donc, ils se débrouillent tous les deux.
Alors, vous me tendez une perche. Vous allez tenter de garder, j'imagine, le plus de monde possible. Ça va pas être évident parce que quand une équipe gagne la Coupe de France, quand on regarde les statistiques justement des joueurs de Dijon, bah, y a peut-être d'autres clubs qui vont s'y intéresser, qui ont prêt à l'étranger. Quelle va être votre attitude par rapport à ça? Examiner au cas par cas, comment vous voyez la chose?
Comment je vois la chose? Je me dis que c'est le constat que je fais. Alors là, la saison elle finit un peu tôt, mais je pense que soit on garde 70% ou 80% de l'effectif et l'entraîneur, soit ben, il faudra reconstruire au départ. Et j'ai un peu peur de ça, mais j'ai confiance aussi parce que les joueurs à Dijon ils sont pas mal. Certes, c'est pas une belle patinoire. Géographiquement, on est le club le mieux positionné en France parce que on vit deux jours de plus à Dijon parce qu'on est au milieu du hockey français. On a un beau centre de préparation physique. Aujourd'hui, on perd, mais on a aucun joueur blessé. S'ils veulent faire des études, il y a de quoi faire. Donc, je pense qu'on a des atouts. S'il n'y avait pas d'atouts, comme je dis souvent quand Yarmo m'en parlait, Yannick Riando, il était à Amiens, il est venu à Dijon quand même. Il y est resté, donc je vois pas pourquoi il n'y en a pas qui resterait. Je crois que le gage, il est, je pense, soit on garde la majorité, soit il faut recommencer à zéro.
Alors parlons justement de cette formation dont on sait qu'elle est essentielle aujourd'hui pour les clubs français. Bon, Dijon n'est pas connu jusqu'ici dans l'histoire, je dis bien dans l'histoire, mais c'est un club récent, pour avoir eu des centres de formation très connus, d'avoir sorti des joueurs, etc. Bon, ça commence. Quelles sont vos priorités par rapport à ce centre de formation? Comment est-ce que vous voyez justement son avenir? Ce sur quoi vous allez mettre l'accent finalement dans les 12 mois à venir, concernant justement les jeunes à Dijon?
Les 12 mois, c'est pas dans les 12 mois, là, c'est dans le mois qui arrive.
Bon, ben, si vous voulez.
Dans le mois qui arrive, c'est d'aller chercher la montée en U22 élite. Parce que je pense qu'on peut le faire. Parce que là, c'est peut-être le petit clin d'œil, mais je crois que j'ai un joueur, là, en Magnus, qui est U22. Et je pense que, je vais pas dire que tout seul, il peut quasiment faire gagner un match U22 excellence. Mais on a une vraie opportunité. Puis c'est peut-être la fin de l'histoire. Mais si le centre de formation, il s'est développé, c'est qu'il y a une petite dame, elle s'appelle Catherine Ritz, je crois, elle y a cru il y a 15 ans. Ça fait 15 ans qu'elle s'est peut-être battue avec son fils pour dire, attends, nous embête pas, Amiens t'appelle, Montblanc t'appelle, Rouen t'appelle, tu vas rester à Dijon, on va en faire quelque chose. Et maintenant, on a quand même une dizaine de sélectionneurs des équipes nationales, on a un sport études qui commence à tourner. Voilà, parce que là aussi, je dis, on a un vrai centre de préparation physique, on va travailler dans les 12 mois, mais la philosophie, et ça c'est important, et je pense qu'il faut faire passer ce message-là, j'en profite, c'est que nous, je dis, la personne qui recrute pour le sport études, c'est le principal du collège et c'est le proviseur du lycée. C'est s'ils disent OK, on peut prendre le gamin, sportivement on regarde s'il a le niveau. S'ils disent OK, on peut pas le prendre, non, même sportivement s'il est bon, on le prend pas. Donc moi j'ai une éthique, c'est peut-être ma formation qui veut ça, mais j'ai un peu une responsabilité sociétale. J'ai pas envie d'avoir des hockeyeurs de 25 ans sans études qui finissent sous les ponts. Parce que quand je regarde le niveau de rémunération des hockeyeurs français sans études, bah à 25 ans, ils auront gagné 500, 600, 700, 800, 1000 euros par mois. En fin de saison, ils sont endettés et ils n'ont pas d'études. Et à la fin, je voudrais pas qu'ils disent « Tiens, je suis passé à Dijon, le président il m'a fait des monts et merveilles. Il m'a juste oublié de dire qu'il fallait faire des études. » Donc nous, on est plus là-dessus. Je pense que ça va payer à terme. Et aujourd'hui, bah, on démontre que... Il y a des Dijonais quand même dans l'équipe, ce qui était impossible. Des Dijonais en équipe de France, c'était impossible il y a 10 ans. Ça, c'est Nicolas qui peut témoigner. On lui disait, si tu avais été à Amiens, tu seras en équipe de France. Il n'a jamais été en équipe de France moins de 16 ans. Il n'a jamais été dans les premières sélections en équipe de France moins de 18. Puis à un moment donné, il y a deux extraterrestres qui ont été en finale d'un tournoi des champions à Mont-Blanc avec une équipe de Dijon qui était en U18 excellence et qui a failli gagner le tournoi. Et à un moment donné, ils sont tous retrouvés là-bas. Donc je crois que c'est aussi ça la philosophie. Nous, on continue notre... moi, je change pas de philosophie. On a juste dit que l'an dernier, il n'y avait plus la flamme de l'équipe première. C'est-à-dire qu'on avait une formation qui commençait à payer. Et puis l'an dernier, il y a deux joueurs qui jouaient pas beaucoup. C'était Anthony Guttig qui était en perdition. Cette année, il est meilleur parce qu'il y a des gens qui lui ont fait confiance. Mais peut-être que l'an dernier, j'avais un entraîneur qui voulait pas faire jouer les Dijonais. Voilà, quand il joue, on voit qu'il marque. Je suis désolé, je balance un peu, mais si Anthony il voulait partir du club pendant 2 ans, c'est que pendant 2 ans, on l'a plutôt mis la tête sous l'été noir. Puis on s'aperçoit qu'il y a un Caillarmo, mais il est meilleur buteur français.
Alors, c'est très rare. Moi, c'est la première fois que j'entends un président de club français de hockey, j'y viens de hockey en France, hein, me parler de social. On a quand même un peu l'impression que c'est un sport où le matériel il est cher, où les familles, et vous êtes bien placés pour en parler, doivent faire des sacrifices en termes de temps pour emmener leurs enfants justement, ne serait-ce qu'à la patinoire, je parle là des jeunes. Après, il y a les déplacements, il y a les coûts de licence, etc. Est-ce que le club de Dijon aujourd'hui a peut-être pas envie de pousser un peu là où d'autres le font pas, pratiquement pas, voire pas du tout? C'est-à-dire, effectivement, regarder un petit peu, aider certains jeunes qui, demain, seront peut-être des stars et qui ne le seraient pas si ben, il n'y a pas un petit peu d'aide à ce niveau-là.
Ils ont aidé, moi, je sais pas. Faut regarder ce qu'on fait à Dijon pour le hockey mineur. Et je dirais que je pense qu'on a le sport études le moins cher, on a les licences les moins chères. Les parents, ils payent aucun déplacement à partir des U11.
Donc, ça, c'est pas assez connu, donc.
Non, c'est pas assez connu parce que chez nous, on dit, ouais, vous faites rien pour le mineur. Mais aujourd'hui, à partir de la catégorie moins de 11 ans, le club, il prend tout en charge. Alors, il n'y a pas l'équipement, mais comme je dis, t'entends le Père Noël, il passe pour acheter une paire de patins, un truc. On a une licence à 280 euros et à partir de moins de 11 ans, on s'occupe de tout. Et je pense que ça, c'est pas connu non plus. C'est pas vrai dans les autres clubs, dans beaucoup d'autres clubs, c'est pas vrai. On a quelques partenaires qui nous aident et je pense que c'est aussi pour ça que nous, on fait pas du social en disant on va dans les banlieues chercher. Mais je pense que c'est un sport certes élitiste, certes onéreux. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à Dijon pour justement permettre au plus grand nombre. On a aussi plus de 300 licenciés cette saison. Hein, c'est quand même plus de 50 licenciés depuis 2 ans. Donc je pense que si les gamins ils viennent aussi ici en école de glace, c'est que ils y trouvent des choses. Ils ont des maillots d'entraînement, ils ont tout, hein, j'irai quelque part. Donc c'est pour ça aussi qu'on bosse pour eux.
Alors derrière cette réussite, alors repartons un petit coup sur l'élite, il y a quand même un coach, bon, un Finlandais. Moi j'aimerais que vous me racontiez comment vous l'avez recruté. Parce que quand on a vu son CV, quand il nous l'a expliqué, j'avoue qu'on était assez surpris. Bon, on rappelle quand même entre autres recruteur pour Calgary, etc. en Ligue Nationale. Bon, on s'est dit, mais attends, où est-ce qu'il a trouvé ce coach et comment ça s'est fait, quoi? Moi j'aurais voulu vraiment avoir une explication, allez, on peut se dire tout ce soir, comment ça s'est passé pour qu'il vienne
Comment ça s'est passé? Je pense qu'à un moment donné, moi je reste persuadé qu'on a une éthique et une philosophie, ça paye. C'est-à-dire que dans le hockey en France, maintenant Dijon, on sait qu'on veut construire des choses. Puis il y a des gens qui, à un moment donné, ont croisé Yarmo, qui cherchait un club en France, qui lui ont dit, tiens, Dijon, c'est peut-être assez familial. Je dois vous avouer, quand je l'ai croisé, ça devait être largement avant le début de saison. Il a passé 3 jours ici, il est venu voir la patinoire. Il a dit, c'est pas grave, hein, la glace c'est la même que partout. Il a vu le centre d'expertise de la performance ou la prépa physique, il a dit ça, par contre, il n'y a pas partout. Et puis, je pense qu'il a vu quelques dirigeants qui avaient envie de faire avancer les choses. Et je pense que c'est aussi des histoires d'hommes. Et quand il a vu des dirigeants qui voulaient faire avancer des choses, il a dit, tiens, tu me parles en disant, tu vas avancer pas par pas, j'ai envie peut-être de faire quelque chose à Dijon. Parce que je pense que, contrairement au fait qu'il soit finlandais, c'est un homme avec un grand cœur, hein, qui a une grande expérience, et qui, je pense, a envie de faire avancer les choses. Et il s'est dit à Dijon, tiens, il y a des gens qui ont envie. On parle pas super bien anglais, mais on a mangé 2-3 fois. Et puis, c'est vrai que quand il est parti, pour continuer l'histoire, hein, le dernier soir, on a mangé avec Nico, avec lui dans un resto, et quand il est sorti, Nico, il me dit, mais il viendra jamais, c'est impossible, t'as vu le CV qu'il a. Et 2 jours après, il a appelé en disant, c'est bon, je signe, vous m'avez convaincu, on peut faire un petit bout de chemin ensemble.
Alors, est-ce que le petit bout de chemin, moi, c'est quand même la question que je me pose à n'importe quel observatoire ce soir, et je pense que les gens dans le public, quand même des connaisseurs de hockey, des gens qui ont appris aussi à aimer le hockey, ils vont se dire, mais attends, on espère qu'il sera là la saison prochaine. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est quand même votre priorité de le voir signer?
C'est la priorité du club, c'est clair. On parle déjà un peu, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu tôt pour digérer la défaite parce que je pense qu'il voulait aller loin, mais ça fait partie des priorités, ça fait longtemps qu'on le dit, comme une dizaine ou une douzaine de joueurs majeurs. Et je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est soit tout le monde reste dans le bateau et on fait une belle aventure sur 2-3 ans, on continue à structurer, soit on continuera à devoir retravailler, retrouver. Mais bon, on a de l'énergie, on a montré qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais je pense que le chemin le plus simple, ce serait quand même qu'il reste, puis qu'il y ait une paire de joueurs qui restent. Mais bon, après, on n'a pas le budget pour les garder, on a peut-être d'autres choses. Et je pense que dans le hockey, il n'y a pas que l'argent qui compte, sinon il ne viendrait pas jouer à Dijon. D'un autre côté, quand on parlait tout à l'heure des salaires, je pense pas que les joueurs français ils soient les moins bien payés à Dijon, contrairement à ce qu'on peut penser. De notre petit club, sans beaucoup de budget, quand je regarde le niveau de rémunération des joueurs, je pense qu'on les traite pas si mal que ça quand même à Dijon.
Vous ne nous donnerez pas une fourchette de rémunération de vos joueurs ce soir?
Je ne donnerai pas de fourchette. Moi, je considère que les joueurs de hockey, c'est des smicards du hockey, mais globalement, nous, on est plutôt aux alentours de 1500 euros net par mois avec quelques primes. Je pense que c'est pas la moyenne de rémunération de joueurs français dans le championnat français. Après, on essaie de faire, on essaie de convaincre, on essaie de donner envie.
Alors, vous avez regardé vous-même le recrutement avec le succès que l'on sait. Vous avez un coach qui est quand même, à la base, sa spécialité première, c'est le recrutement au plus haut niveau. Est-ce que, s'il reste, vous allez discuter un peu du recrutement avec lui et peut-être l'écouter s'il vous suggère un ou deux joueurs venus du froid?
Bien sûr.
Qu'ils soient dans vos prix, évidemment.
Oui, non, mais il faut trouver des joueurs qui soient dans nos prix, il faut trouver des joueurs à potentiel. Après, le recrutement cette année, il a été compliqué parce qu'il fallait garder certains joueurs, il fallait avoir le coach, il fallait en trouver d'autres. Ça a été une alchimie un peu compliquée. Mais là, de toute façon, si Hermo reste, le recrutement, c'est lui. Maintenant, il connaît un peu mieux le hockey français, il a quelques réseaux. Donc voilà, je crois qu'il faut laisser faire les choses. C'est pas au président, c'est pas au bureau directeur de recruter. C'est peut-être au bureau directeur de temps en temps dire, tiens, lui, tu le prendrais pas. Moi, je pense que pour telle ou telle chose, tu le prendrais. Quand je regarde globalement l'équipe et la pré-liste que Yarmo fait, il y a aussi des joueurs qui sont dans le vestiaire parce que humainement c'est important de les avoir et qui bossent pour le club. Donc je pense que cette alchimie-là, il l'a bien compris et je pense qu'on s'est bien tous entendus en début de saison dernière pour se dire ouais, mais tu me dis celui-là, pourquoi? Je pense que ça vaut le coup parce que humainement il y a besoin aussi de mecs dans le vestiaire qui créent la dynamique et si on en est là, c'est parce que le vestiaire il a aussi bien fonctionné toute l'année et qu'ils étaient tous ensemble, quoi.
Alors, on sait qu'un des problèmes, vous avez évoqué à la fois l'aspect amateur, en soulignant association, beaucoup d'amateurs, etc. Et puis, il y a des domaines, et votre coach en est, à mon avis, l'exemple le plus évident, où c'est un sport professionnel, il faut des pros. J'imagine, vous avez évoqué les préparations physiques, excellentes, j'imagine que vous avez des pros. C'est quoi la limite pour vous, justement, entre... je dirais l'amateurisme, même de manière bénévolat, de manière tout à fait, de compétence, quoi, des gens très compétents dans le bénévolat, et puis à un moment on se dit, il faut un pro. C'est quoi les limites un petit peu? C'est une question que je me suis souvent posée.
Il n'y a pas de limite, je crois qu'à un moment donné, il faut avoir conscience des compétences de chacun. Aujourd'hui, parce qu'on prépare la saison prochaine, il y a 2-3 postes clés sur lesquels on est en train de travailler. C'est aussi pour avoir un responsable matos et machin. Et quand je discute avec les gens, ils me disent « mais tu peux me donner combien ?» Moi, je dis non, c'est pas ça. C'est il faut combien pour avoir la personne au bon poste, au bon moment. Et après, c'est à nous d'aller travailler pour faire ça. Et je pense qu'on gère quand même pas trop mal le club parce qu'on dépense pas beaucoup d'argent. Et que derrière, on sait mettre des postes clés. Quand il a fallu recruter un entraîneur pour le hockey amateur, on a pris Jonathan Paradès. J'en ai pas vu 15, j'en ai vu un. Parce qu'on m'a dit, si tu veux quelqu'un, c'est lui. On s'est pas trompé. Yarmo, c'est pareil. Le préparateur physique, il bosse. Donc après c'est plutôt de dire si on veut se structurer il faut ça. La Fédé de hockey bosse un peu sur le sujet. Moi je suis au comité directeur dans le groupe de travail sur la structuration de la ligue. Quand je regarde le cahier des charges de ce que doit être un club, on n'en est pas très loin. Après juridiquement il va falloir évoluer, mais il manque un ou deux postes et je pense que derrière après on peut toujours avoir un manager général et le payer 90 000 euros. Aujourd'hui je pense qu'on n'en a pas besoin parce qu'il y a des gens qui ont des compétences. Moi je sais gérer 80 personnes et 400 millions de budget à mon boulot, donc je pense qu'à un moment donné j'ai pas besoin de quelqu'un.
Conseil régional.
Donc je pense qu'on n'a pas besoin, il y a d'autres chefs d'entreprise, il y a d'autres membres dans le bureau directeur qui savent faire des choses. Donc après il faut juste compléter dans les choses qu'on sait pas faire et qu'on doit pas faire. C'est plutôt de se dire de quoi on a besoin et ça coûte combien, plutôt que de dire mince j'ai que ça donc ça sert à rien. Il faut plutôt inverser et après se donner les moyens. Je pense qu'on a aussi des partenaires qui nous accompagnent. Comme je dis, le chiffre clé, passer le partenariat privé pendant la crise économique de 110 000 à 350 000, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient OK et je pense que cette année sera encore plus facile de les amener un peu à nous accompagner sur la saison prochaine.
Vous êtes particulièrement bien placé pour porter maintenant un regard objectif ou subjectif, c'est pas le problème, sur la formule de la compétition Magnus. Les play-offs, la saison régulière, les différents frais, la manière dont ça fonctionne en France. Est-ce que vous avez, au vu de cette saison, quelques remarques à faire là-dessus, peut-être quelques trucs que vous aimeriez, sinon changer, du moins qu'il y ait peut-être un regard différent, ou des évolutions, ou quelques réflexions à avoir sur des points qui soit vous ont semblé problématiques, soit qui, de votre point de vue, seraient peut-être quand même un peu à revoir?
Pas à revoir, je pense qu'à un moment donné, on peut travailler plus intelligemment sur la logistique des déplacements, sur le fait d'arrêter de dire tiens on mange dans le coin d'investir un truc alors qu'on pourrait dire tiens j'accueille le club de Grenoble, tiens vous mangez à la fin, on vous fait le repas quand on arrive à Grenoble, on fait pareil. Je crois qu'on n'arrive pas à faire des choses comme ça et voir des joueurs de hockey manger du plat réchauffé dans un micro-ondes, dans un couloir, je pense que c'est pas très glorieux pour une ligue qui se veut de plus en plus professionnelle. Et je pense que c'est des choses comme ça, la politique des transports c'est pareil. Je pense qu'à un moment donné, on pourrait se mettre autour de la table, dire tiens, quand tu fais un Grenoble-Dijon, ça te coûte combien? Moi, quand je fais un Grenoble-Dijon, ça coûte et qu'on pourrait peut-être avoir des centralisations un peu d'achat, d'être intelligent, parce que quelque part, ça rapporterait plus au club, ça payerait un peu plus les joueurs. Et c'est toutes ces choses-là, je pense qu'à un moment donné, on n'est pas assez intelligent collectivement. Après, on peut dire l'arbitrage c'est trop cher, oui, l'arbitrage c'est trop cher parce que le mécanisme est pas bon. C'est tout. Après, je préférais que l'arbitre soit vraiment payé ou qu'on mutualise, qu'on dise tiens, les frais d'arbitrage sur la Ligue Magnus, c'est tant dans la saison. Il y a 14 clubs et on divise par 14 et chacun paye la même chose. Point. Et puis après, on ne se poserait plus la question de dire comme ce soir. Je suis désolé de dire, il n'y a quand même que 2 matchs ce soir qui se jouent. J'ai un arbitre qui vient de Montpellier et j'ai un juge de ligne qui vient de Tours. Ça me pose quand même question, quelque part. Je ne veux pas dire qu'ils étaient mauvais, mais je pense qu'il y a des mecs qui sont un peu moins loin et ça fait 400-500 euros d'économie. À 400-500 euros d'économie, c'est un ou deux juniors en plus sur la quatrième ligne. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut partager. Moi, c'est pas de la critique, c'est peut-être se dire l'économie est compliquée. Tout le monde parle de réforme générale des politiques publiques dans l'État, des réformes dans les collectivités. Pourquoi pas dans le privé, dans les clubs, on pourrait pas faire pareil, se mettre autour de la table, dire tiens, la logistique, tiens les déplacements, tiens le matériel, tiens, plutôt que de se dire tiens, je vais être plus intelligent que l'autre et on va gagner des trucs quoi. Donc c'est, je crois que des choses comme ça qu'on doit pouvoir faire avancer tous collectivement.
Bon, il va falloir qu'on s'arrête forcément, même si c'est toujours intéressant d'avoir ce type de dialogue. Bon, une dernière question. Là, bon, vous avez un public qui est venu très nombreux ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce public? Est-ce qu'il va retrouver, enfin, je connais la réponse, mais dites-lui quand même qu'il va retrouver une équipe la saison prochaine qui sera digne de lui, que effectivement, ben, vous allez examiner les choses et que Dijon va repartir sans doute plus fort que cette saison, avec pour objectif, pourquoi pas, un doublé aux Coupes de France et puis ben, aller plus loin évidemment en championnat.
Oui, de toute façon, merci, c'est la plus belle fête du hockey, donc on a forcément envie d'y retourner. Ça fait quand même deux fois qu'on y va en trois ans. Non, moi, comme je dis, on va tous travailler fort pour se dire maintenant qu'il y a un truc en début de saison que j'aurais jamais imaginé, c'est qu'on puisse finir dans le top 4 et éventuellement aller en finale de la Ligue Magnus. Certes, on est sorti en quart, mais on se dit que c'est possible. Ça fait trois ans qu'on est sorti quand même au niveau des huitièmes de finale. Donc là, on est déjà de nouveau revenu en quart. On a gagné Bercy. On n'est pas passé loin en Coupe de la Ligue. On a montré qu'on peut faire, donc on va bosser. L'an dernier, au mois de mai, on disait que le dirigeant n'était pas bon, qu'il changeait tout et que la saison allait être désagréable. Quand on a fait le Beaujolais nouveau, je dis la saison, elle n'est pas si désagréable et finalement, j'entends moins les critiques. On va essayer de faire pareil. Je dis pas, faut arrêter de penser qu'on va être les plus beaux et les machins, parce que peut-être que l'an prochain, on finira 12e du championnat. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des joueurs français qui peuvent avoir envie de toquer à la porte de Dijon pour se dire il y a des choses à faire. Donc voilà, on a gagné un peu de notoriété, on a gagné une image de marque. On va continuer à essayer de capitaliser. Donc voilà, il faut un peu d'énergie et rebosser pendant les 2-3 mois. Parce que tout le monde pense que maintenant on est en vacances et maintenant c'est le plus dur en fait. Le mois de mars, avril, mai et juin, c'est le plus dur de la saison. Parce qu'une fois que le recrutement est fini, une fois que le bilan est clos et que le prévisionnel est fait, il reste juste à faire de la logistique pour organiser les matchs. Donc ça, c'est pas le plus compliqué.
Il nous reste à vous remercier pour cette interview, à vous féliciter pour cette saison, à l'image que vous avez donnée en matière de beau hockey, parce qu'on peut aussi gagner, mais en jouant mal, vous gagnez en jouant bien, ce qui est agréable. Et puis, on a vu aussi une très belle fête à Bercy. Je pense que vous en étiez le protagoniste principal. Donc, on ne peut dire qu'aller Dijon pour la saison prochaine. Merci à vous.
Merci beaucoup.